Merci Frédéric, merci à l'équipe de Louange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Tout à l'heure, je me sentais comme quand j'avais 14 ans, pendant qu'on louait le Seigneur. À 14 ans, je faisais partie d'un groupe folklorique. Je jouais du galoubé et du tambourin. Voilà. Et il y avait quelque chose que je badais et que je jalousais, c'était les fanfares. Parce que mon galoubé, ça ne faisait pas de taille avec eux. Hein. Mon galoubé, mon tambourin, on était peut-être deux ou trois fifres à jouer. Mais lorsqu'une fanfare passait, eh ben, la fanfare, elle couvrait le bruit de nos petits galoubés. Mais ce qui m'impressionnait dans cette fanfare, c'était qu'ils marchaient à l'unisson. Chaque instrument avait sa partition et ça faisait quelque chose de terriblement harmonieux. Alors quand j'avais 14 ans, je n'étais pas éduqué dans la musique classique, je ne connaissais pas les symphonies et tout ça. Mon seul repère, c'était les fanfares. Et les fanfares, déjà, pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et ce matin, alors que j'étais assis et que je me tournais pour vous voir, pour vous regarder, je m'excuse, des fois je suis un peu comme ça, à regarder comment ça se passe, mais je me sentais bien, je sentais qu'on était un, je sentais qu'on chantait la même chose pour le Seigneur. Et merci à Gabriel et à toute l'équipe qui était là, parce qu'ils nous ont amenés dans cette unité de l'esprit, dans cette unité où on chantait, la même chose pour la gloire de Dieu. Et vraiment, je ressentais cela. Et j'ai dit, Seigneur, je suis dans la fanfare la plus merveilleuse qui soit. Et au ciel, encore, là, nous sommes 200, mais au ciel, on sera des myriades et des myriades. Comme disait Frédéric, c'était en Israël, il y avait des quarts de toutes les nations. Et même les Chinois étaient toujours devant nous. On essayait de les rattraper, mais ils étaient là. Et, au ciel, on sera tous ensemble devant le Seigneur et on chantera une seule voix, ou plutôt chacun sa voix, mais ça fera une harmonie, une tellement extraordinaire chant pour le Seigneur. Alors merci, merci beaucoup pour ce que nous avons vécu ce matin. Alors juste un peu un débriefing, Frédéric nous a dit tout à l'heure quelques mots sur Israël, j'aimerais simplement dire aussi quelques mots. Pour ma part, nous étions 25. Il y avait une personne qui ne connaissait pas le Seigneur. Il y avait parmi nous des personnes qui étaient fatiguées et malades. C'était un défi pour nous de vivre ce temps en Israël pendant 10 jours. Mais je veux dire, ça a été un cadeau merveilleux. Ça a été vraiment un temps où nous avons vécu aucun faux pas, où nous étions bienveillants les uns avec les autres, où nous étions accueillants les uns et les autres, nous écoutant les uns et les autres. Alors bien sûr, certains diraient, mais moi j'avais ma chambre à côté de l'ascenseur qui faisait du bruit toute la journée, bing, 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 et moi j'ai pas trouvé la nourriture à mon goût. Mais ça c'était, je dirais, de l'ordre du secondaire. Ce qui était bien, c'était ce groupe qui était là, qui était tenu par le Seigneur. Et puis nous avons suivi les pas de notre Seigneur au travers d'un pays merveilleux qu'on apprend à découvrir et à aimer au travers de la parole de Dieu. Mais si je peux vous exhorter, bien pensez peut-être à aller une fois au cours de votre vie faire une espèce de pèlerinage, en tout cas découvrir ce pays-là. Alors nous avons commencé par le lac de Galilée. Alors le lac de Galilée, c'est la grande mer qui est au centre de l'État d'Israël. Et autour de ce lac, il y a tous les lieux où Jésus a fait tel ou tel miracle. Si nous sommes à l'ouest de ce lac et qu'on tourne le dos au lac, on a une colline. En haut de cette colline, il y a une église, parce que chaque fois où Jésus a marché, a fait quelque chose, on construit des églises. Il y a une colline qu'on appelle la colline des Béatitudes. La colline des Béatitudes. C'est un endroit merveilleux qui est bien, bien aménagé par les prêtres et les bonnes sœurs qui y sont. Et nous sommes allés donc sur cette montagne des Béatitudes. Et puis André Allègre nous a lu quelques passages, pas toute la totalité des Béatitudes. Et puis Jean-Hugues a donné son témoignage. Et il disait qu'il a découvert Jésus en lisant le sermon sur la montagne. Il connaissait rien du Seigneur, il avait commencé par l'évangile de Jean. L'évangile de Jean lui était obscur, mais il a dit, il a persévéré, il est allé dans l'évangile de Matthieu, et puis il a commencé à lire le sermon sur la montagne. Et là, il a rencontré Jésus, en lisant le sermon sur la montagne. Alors ce matin, j'avais un choix. Lorsque je préparais, je priais pour cette prédication. Je disais, peut-être ce serait bien que je puisse faire un grand commentaire sur le sermon sur la montagne. Mais il me semblait que ce n'était pas ça. Et j'avais comme cette autre option, que nous n'avons pas l'habitude de faire durant le culte, de simplement d'écouter Jésus qui nous parle. Tout à l'heure, on a chanté « Il est celui qui fait entendre les sourds, il est celui qui fait voir les aveugles, mais il est aussi celui qui enseignait, il est aussi celui qui parlait. » Et alors si ce matin, nous puissions entendre ensemble la voix de notre Seigneur qui nous parle au travers du sermon sur la montagne, de ce magnifique sermon qui nous touche. Alors, on va vivre cela, je vous amène avec moi au monde des béatitudes ce matin. Et nous allons lire ensemble ces trois chapitres. Nous n'avons pas l'habitude de lire tel chapitre comme ça de manière aussi longue, mais je crois que c'est important que nous puissions le faire ce matin. Alors j'ai demandé à Matthieu, à Timothée et à Florence de lire chacun un chapitre. Et puis voilà, que nous ayons cette attitude de cœur, que nous ayons cette écoute par le Saint-Esprit de ces paroles que Jésus a prononcées 2000 ans en arrière, mais qui sont toujours aussi vivantes, aussi percutantes, aussi remuantes qu'il y a 2000 ans. Vous êtes d'accord avec ça? Et puis après, je ferai un petit commentaire, mais vraiment très brièvement sur ces passages. Alors je vais demander à Matthieu de venir, puis Timothée, quand Matthieu aura terminé, tu viens, je t'introduis pas, et puis après je laisse la place à Florence.
Matthieu 5. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et, après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez-vous pas que je sois venu pour abolir la loi ? Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes ? Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point, celui qui tuera est passible de jugement. » Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère « Raca » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, ni par ce qui est, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait.
Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce qu'a fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret. » et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres ? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps. De quoi vous serez vêtu ? La vie n'est-elle pas plus que de la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses iniquitudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croisent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à la plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste, qui sait que vous en avez besoin, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront pardonnées par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine.
Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ? Hypocrite ! Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Et elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes.
Merci aux lecteurs. C'est pas si évident hein, de prendre la place de Jésus qui enseigne. Mais nous les avons reçus comme vraiment la parole qui est une parole vivante et qui demeure. Qu'est-ce que Jésus a fait lorsqu'il a enseigné sur le sermon sur la montagne? Il a présenté un programme. Il a présenté le programme de la vie du disciple. Ce vers quoi un disciple de Jésus doit aspirer à vivre. Et ce programme de vie du disciple englobe tous les aspects de la vie, de la personnalité du disciple, de ses relations avec autrui, des valeurs à rechercher, des valeurs à construire, la piété même. Et donc le sermon sur la montagne, c'est une vision de la vie à laquelle nous devons tendre. Et on ne peut pas tendre à moins que cela dans nos vies, parce que c'est le Maître qui a enseigné, parce que c'est le Fils de Dieu qui a enseigné et qui a parlé cette parole sur la montagne. Il ne parle pas à une élite, des gens hyper spirituels, c'est à chacun d'entre nous qu'il parle. Il ne parle pas pour un futur ou pour un avenir lointain, il parle pour nous dès aujourd'hui. Ce n'est pas simplement un relooking de façade, c'est un appel à une transformation intérieure. Et ce n'est pas par nos propres forces, sinon il faudrait couper tout ce qui nous fait chuter. Chacun d'entre nous, nous sommes concernés par ce que Jésus a enseigné dans ses chapitres 5, 6 et 7 de l'évangile de Matthieu. Et le but est un but élevé, frères et sœurs. Jésus n'en cache pas le défi. Soyez parfaits comme le Père est parfait. Est-ce réalisable? Est-ce atteignable? Est-ce que nous allons amoindrir le but que Jésus nous fixe? Est-ce atteignable? Cela le sera. Mais pour l'instant, nous courons vers le but que Jésus nous a fixé. Jésus sait qu'il y aura des chutes et des échecs lorsque nous marchons et lorsque nous courons vers ce but. Jésus sait que notre personnalité ne lui fera pas honneur. Jésus sait que nos relations sont souvent entachées de péché. Jésus sait que nous voudrions courir auprès des valeurs qui ne lui sont pas agréables. Jésus sait que notre piété fera souvent défaut. Mais Jésus nous dit de prier pour que nos offenses soient pardonnées, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Oui, il a prévu nos chutes, il a prévu nos échecs dans cette marche vers la perfection. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à ne pas amoindrir le but. Le Seigneur nous appelle à relever le défi. Le Seigneur nous appelle à nous relever si nous sommes tombés pour courir encore et pour aller toujours plus loin derrière lui. Il est fidèle et juste pour nous pardonner si nous tombons, si nous chutons. Alors, il nous faut rester à la vision, à l'enseignement que Jésus nous donne dans ce chapitre, dans ces chapitres 5, 6 et 7. Ce n'est pas un programme d'autosatisfaction, ce n'est pas un programme de réalisation de soi, c'est un programme de vie et qui vise à influencer le monde dans lequel Dieu nous a placés, vous et moi. Car Jésus le dit, nous sommes sel et nous sommes lumière du monde, chacun d'entre nous. Nous sommes appelés à pratiquer les œuvres bonnes pour éclairer le monde de la bonté de Dieu sur toute sa création. Comment ce programme se manifeste? Comment ce programme de vie du disciple se concrétise dans la vie de tous les jours? Comment ce programme s'applique-t-il à la vie de tous les jours? Premièrement, par la déconstruction. Hier, nous étions avec Bill Wilson. Il avait invité quelques pasteurs à venir autour de lui et il nous a enseigné par rapport au sacrifice. Il nous a rappelé ce verset fameux de Romains 12, verset 1. Il dit, où l'apôtre Paul dit, « Je vous conjure, par les compassions de Dieu, d'offrir vos corps en sacrifice vivant et saint, une vie qui lui soit honorable. » Et il a fait le parallèle avec les sacrifices de l'Ancien Testament. Nous sommes appelés à vivre une vie de sacrifice. Et lorsque dans l'Ancien Testament, on faisait un sacrifice, on commençait par couper la tête. Et le Seigneur nous appelle à changer de perspective, Vincent l'a dit. Il y a un besoin souvent de déconstruction de nos pensées pour que le Seigneur puisse mettre sa propre pensée. Vous avez appris, vous avez entendu dire, tu ne tueras pas. Mais moi, je vous dis, si tu dis insensé à ton frère, tu es aussi un meurtrier. Parfois, le Seigneur déconstruit ce que nous avons, ce que la culture extérieure, ce que les valeurs familiales ont pu même nous apporter. ce que nous avons cru dur comme fer. Et le Seigneur nous enlève tout ça par sa parole. Si Jérémie, le prophète, a été appelé par le Seigneur, on lui a dit, tu diras des paroles pour détruire, pour arracher, pour démolir, mais tu diras aussi des paroles pour planter et pour reconstruire. Et c'est ce que le Seigneur fait dans nos vies. Il enlève ce qui est nuisible à son royaume, à son évangile, pour mettre véritablement sa pensée. Vous avez appris, mais moi je vous dis. Vous avez entendu dire, mais moi je vous dis. Et sa parole nous percute là où nous en sommes. Qui d'entre nous n'avons pas dit à quelqu'un insensé, et encore insensé, c'est un mot poli. Ça touche quelque chose hein, dans nos cœurs. Et le programme de la vie du disciple s'applique aussi par la différenciation. Le Seigneur, à plusieurs endroits, dit « Ne leur ressemblez pas. Ne faites pas comme. Ne leur ressemblez pas. » On croit souvent que pour avoir un meilleur impact dans le monde, il faudrait être pareil que le monde. C'est John Stott qui dit ceci, « Rien ne devrait plus déranger le chrétien que de s'entendre dire qu'il est comme le monde. » Rien ne devrait plus déranger le chrétien que de s'entendre dire qu'il est comme le monde. Si nous voulons rester celle de la terre, lumière du monde, nous sommes appelés à être différents du monde. Ne leur ressemblez pas. Ne faites pas comme. Ne faites pas comme. Il y a dans le programme de vie du chrétien comme un dépassement de soi, non pas dans le sens de réalisation de soi, mais dans le sens de faire ce que Dieu veut que nous fassions, d'être ce que Dieu veut que nous soyons. Il nous appelle à une vie extraordinaire, c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire, qui sort de l'ordinaire. Vous aimez vos amis, c'est ordinaire. Aimez ses ennemis, c'est extraordinaire. Faire un mille avec un soldat, c'était une loi lorsque le soldat romain demandait que vous portiez ses affaires, parce que c'était quand même l'occupant. Vous pouvez faire un mille avec lui. Le soldat ne pouvait pas demander plus. Mais lorsqu'on vous demandait de faire un mille, ça c'est ordinaire. Mais faire un mille de plus, ça c'est extraordinaire. Se défendre lorsqu'on est attaqué, c'est ordinaire. Renoncer à ses droits lorsqu'on est attaqué, c'est extraordinaire. Se venger, c'est ordinaire. Tendre l'autre joue, c'est extraordinaire. Verser quelques gouttes d'eau au pied de quelqu'un que l'on accueille, c'est ordinaire. Verser du parfum de grand prix au Seigneur, c'est extraordinaire. Le Seigneur nous l'a rappelé ce matin. Et nous sommes appelés, frères et sœurs, à vivre des vies extraordinaires. À aller plus loin que ce que le monde considère comme ordinaire. C'est notre appel. C'est comme cela que nous pourrons être ensemble, sel de la terre, lumière du monde. Alors je vois vos objections, et elles sont les miennes aussi. C'est au-delà de nos forces. Tendre la joue alors qu'on en est baffé, excusez-moi, c'est difficile. C'est de la faiblesse. C'est injuste. Si on ne doit pas se défendre alors que l'on est attaqué, c'est injuste, c'est impossible à vivre. Est-ce que Jésus nous propose des choses qui seraient irréalisables? Je ne crois pas. Ceci s'adresse à des personnes qui sont nées de nouveau, qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur. Ça ne s'adresse pas au monde qui ne connaît pas Jésus. Ça s'adresse aux disciples de Jésus. Ça s'adresse à vous et à moi. Ceci s'adresse à des personnes qui ont compris que la grâce leur a été faite. Lorsque Étienne est lapidé, il a les mêmes paroles que le Seigneur Jésus. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » L'Esprit de Jésus était en lui à ce moment-là, lorsqu'il était bafoué, critiqué, mis à mort. Je crois que le Seigneur nous donne les forces, au moment où nous en avons besoin, pour faire ces choses extraordinaires qu'il nous appelle à faire. Est-ce que vous le croyez? Et j'espère que vous le croyez. Et c'est, en tout cas, c'est ma foi. Je crois vraiment que le Seigneur nous donne à chacun, dans des moments, je dirais, ordinaires de la vie, de nous comporter de façon extraordinaire. Je me rappelle d'un livre qui s'appelle « Pardonne-moi, Natacha ». Et si vous l'avez lu, c'est tant mieux. Mais moi, il m'a frappé parce que ça raconte l'histoire d'une fille qui s'appelait Natacha. C'était à l'époque de l'Union soviétique. Et elle allait aux réunions chrétiennes qui étaient interdites. Et il y avait quelqu'un qui faisait partie de la police secrète et qui venait à ces réunions. Et au moment où il découvrait ces réunions, il frappait les gens qui étaient dans ces réunions, les violentait, les amenait en prison. Et cet homme avait battu Natacha, l'avait emmené en prison, Natacha. Natacha est de renouveau libre. Et vous savez ce qu'elle fait, Natacha? Elle retourne aux réunions. Elle retourne aux réunions. Et voici, le même bonhomme était là avec sa matraque, quelque temps après. Là encore retabassé, là encore violenté, encore remis en prison. Natacha est de nouveau libre. Et qu'est-ce qu'elle fait, Natacha? Elle retourne aux réunions. Et voilà que de renouveau, ce type-là, il est là. Et là, il est terrassé par le Seigneur. Il est terrassé par le Seigneur. Je crois que cet exemple-là de Natacha me suivra toujours, parce que ça m'a donné comme une espèce de modèle dans ma vie. Ce n'est pas Natacha, mais il y a des tas de témoignages comme cela qui nous montrent que Dieu donne la force aux chrétiens lorsqu'ils sont dans des situations qui sont bizarres. Le Seigneur leur donne de se comporter de façon extraordinaire. Je crois vraiment que le Seigneur veut nous faire vivre ça. Alors n'abdiquons jamais cette vision que le Seigneur enseignait à ses disciples, laissant les paroles même de Jésus fonder notre caractère et notre personnalité. Ce que nous avons entendu ce matin, 5, 6, 7, relisons, gardons, faisons-nous notre. Quand une chose nous paraît difficile, impossible, demandons la force du Seigneur. Martin Luther King disait: la haine ne peut pas chasser la haine, seul l'amour le peut. Les ténèbres ne peuvent pas chasser les ténèbres, seule la lumière le peut. Et je voudrais conclure, parce que je crois que c'est au centre du serment sur la montagne. Comment pouvons-nous vivre le serment sur la montagne si ce n'est par la force que donne une relation profonde et intime avec le Seigneur, avec le Père? Et combien de fois est répété dans ce serment: votre Père, votre Père, votre Père. Lorsque vous priez, allez dans votre chambre, allez dans votre lieu le plus secret, et votre Père est là dans le lieu secret. Ainsi, le programme de vie que Jésus annonce dans ce sermon Ce n'est pas un programme en 5 points, en 6 points, en 7 points. Je dirais c'est simplement un seul point. Une vie relationnelle avec le Père qui se manifeste au quotidien. Le serment sur la montagne bannit l'apparence, privilégie le cœur. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Le serment sur la montagne, et écoutez-moi bien, frères et sœurs, le serment sur la montagne, c'est la manifestation des enfants du Père qui ressemblent au Père. Nous ne sommes pas appelés à ressembler au monde, mais à ressembler au Père. Amen. Par Jésus-Christ. Je vous propose de vous lever. Je vais demander à l'équipe de louanges de venir. Et j'aimerais que l'on chante un chant que j'avais depuis ce matin. C'est que l'Esprit de vérité vienne sur nous et que nous puissions dire ensemble cette prière que le Seigneur nous a appris dans ce sermon sur la montagne. Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite. Que nous puissions le dire ensemble. Nous sommes ceux qui avons écouté ce message sur la montagne ce matin. Amen.
Oh,